Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive en onde. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Saye au micro de Canal M. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi matin qu'on annonce encore beau. D'ailleurs, toute la semaine, ça s'annonce comme ça. Profitons-en, mes amis. Profitez-en aussi dans votre coin de pays si ça vous est favorable, comme à Montréal. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 11h45. Après quoi, ce sera le bulletin du handicap animé aujourd'hui par Kevin Breton. Je suis en compagnie de Mathieu Tessier qui est en train de zouzouner sur les petits boutons pour me faire la voix la plus sensuelle possible. Va-t-il y arriver? La réponse dans quelques secondes. Non, c'est important d'avoir la voix sensuelle quand on fait la lecture des journaux, parce que je sais pas, ça rend la chose un peu plus facile, un peu plus... Bon, je vais arrêter mes bêtises en ce lundi matin. Alors, dans la première demi-heure, eh bien, comme toujours, j'ai épluché pour vous deux quotidiens montréalais, soit La Presse et Le Journal de Montréal. Et entre deux, eh bien, Christiane Campagna va venir faire son petit tour pour me parler de la nouvelle virale du jour. Bien sûr, j'évoquerai pendant toute cette émission les journaux régionaux. Il y aura aussi un troisième quotidien montréalais que je vais éplucher pour vous. On parlera culture, on parlera international. Je vais recevoir notamment Gisèle Lalande à cette émission. Bref, les voix de service seront bien présentes. On va commencer dans quelques secondes avec celle de Mathieu Tessier. Alors Mathieu, si je vous dis 5 octobre 2015, 5 octobre surtout, vous me répondez quoi?
En fait, je commencerai par dire que le 4 octobre était la journée nationale des aveugles et malvoyants.
Et pouf, et c'est tombé un dimanche.
Mais oui. Mais
et c'est tombé un dimanche. Non, c'est ça. C'est pas de notre faute. C'est comme ça. C'est tombé un dimanche. Mais on n'est jamais en retard.
Sinon, le 5, c'est la journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Et c'est aussi la journée mondiale de l'architecture.
Ah, oui.
Christophe Colomb a découvert le Costa Rica. Le 5 octobre.
Eh bien, moi, je ne l'ai toujours pas découvert.
C'est vrai?
Non, je ne connais toujours pas le Costa Rica, non.
Avec Daniel Baldwin, Monsieur Diderot et Goldorak.
Pas Goldorak.
Je trouvais ça trop sympathique.
Goldorak, toi.
Goldorak.
Oui, non, je sais. Oui, mais c'est l'anniversaire de Goldorak. Il est né en quelle année, Goldorak?
Il a 40 ans aujourd'hui.
Ah oui!
Ben oui, déjà.
Ah là là!
Ça ne me rajeunit pas.
Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir un chien style boxeur que j'aurais appelé
Goldorak.
Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Allez, on commence tout de suite avec La Presse ce matin, en ce 5 octobre. À la une photo de M. Crosby, 10 ans plus tard, le 5 octobre 2005, Sid the Kid prenait part à son premier match dans la LNH. Voilà un autre anniversaire. Aujourd'hui, Turco, le grand dérangement commence. Tiens, boum. Le grand dérangement commence. Turco, le projet de 4 milliards, prendra bientôt sa vitesse de croisière. Une douzaine de chantiers majeurs seront ainsi en activité d'ici les prochains mois, provoquant, hein, vous le savez, leur lot de détours routiers et de congestion. Et ça, il y en a pour 4 ans, mes enfants, 4 ans. Également, après la pluie, d'autres pluies. Dieu sait si nous sommes gâtés, mais ce n'est pas... pas le cas dans bien des régions et même à l'international. Hein, je lisais qu'en France, dans le sud de la France, où on n'est pourtant pas habitué à ça, mais alors du tout, dans la région de Nice, Cannes, Beaulieu et tout ça, les pluies torrentielles et les forts vents, on est rendu à 18 morts en ce moment dans le sud de la France. C'est le cas aussi de pluies torrentielles qui se sont abattues depuis plusieurs jours dans le sud-est des États-Unis, qui ont fait au moins 4 morts. Et qui pourrait provoquer des inondations sans précédent. La ville de Columbia, en Caroline du Sud, a notamment été touchée. On nous en parle à la une de La Presse. On nous annonce quelques chroniques, et notamment celle de François Cardinal. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Ça s'appelle « Les vieux et les banlieues » sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'aînés que d'enfants au pays. Et le hic, écrit ce chroniqueur, c'est que les banlieues ont été pensées pour les jeunes familles, pas pour des baby-boomers qui auraient décidé d'y vieillir. Alors, avant de vous lire quelques mots de cette chronique, le petit clin d'œil de Stéphane Laporte ce matin, les 5 débats nous auront permis d'apprendre que les chefs aiment porter des vestons foncés. Autrement dit, on n'a rien appris d'autre que ça, quoi.
D'accord, là, je comprends.
Ah non, c'est ça, parce que là, j'ai vu à ta face, Mathieu, que tu n'avais absolument pas compris.
Non, non.
En fait, la seule chose qu'on a apprise lorsqu'on a regardé ces débats-là, c'est qu'ils aimaient porter des vestons foncés.
Même Elisabeth May?
Même Elisabeth May.
C'est vrai, j'ai pas
remarqué. Oui, oui, veston foncé aussi pour Madame May. Alors, François Cardinal, tiens, les vieux. Excusez-moi, c'est parce que j'avais une image dans la tête. Ça s'appelle comme ça. Monsieur Cardinal, d'ailleurs, dont la chronique est appuyée par une photo de l'avenue Victoria à Saint-Lambert, car effectivement, il sera question de Saint-Lambert. On est donc en banlieue, mais ce n'est pas la banlieue, dit Cardinal. On y trouve une rue principale grouillante, des espaces publics animés le jour et le soir, des rues foulées par des citoyens en semaine et en fin de semaine. C'est une drôle de bibitte que ce village urbain de la rive sud, loin des cités dortoirs qui l'entourent. Une bibitte que j'observe depuis des années pour tenter de comprendre ce qui la distingue de ses voisines. Voulez-vous que je vous dise son secret? Oui, Mathieu?
Oui, oui, non, mais allez-y.
Alors, son secret, mon petit Mathieu, ce sont les vieux. Ah. D'après M. Cardinal. Parce que, bon, il dit c'est vrai que Saint-Lambert a la chance d'être imprégné de ce town spirit des anciennes municipalités anglo-saxonnes, mais ce qui l'anime pendant que la classe travaillante est au boulot, ce qui la fait vivre pendant que les banlieues sont désertées, ce sont les personnes âgées. Sans elles, pas de vie commerciale les jours de semaine, pas de café, pas de terrasse ou de boulangerie occupée entre 9 et 5, pas de librairie, de bibliothèque, de piscine achalandée en matinée, pas de parc, pas de sentier, pas de trottoir emprunté l'après-midi, si ce n'est par les personnes qui ne travaillent plus. Hein? Il dit que le vieillissement de la population, ce n'est pas un défi ici. C'est un apport d'oxygène. C'est une façon de garder le fort une fois que les troupes ont pris le pont. C'est un afflux de 109. Paradoxalement, une situation qui est plutôt unique dans les couronnes, écrit toujours monsieur Cardinal, et qui devrait inquiéter les villes de banlieue tout autour, car contrairement à Saint-Lambert, elles ne sont pas prêtes du tout à encaisser le choc démographique qui est à leur porte. Parce que, nous rappelle-t-il, il y a maintenant plus d'aînés que d'enfants au pays. C'est ce que nous apprenait Statistique Canada, bon, un vieillissement hein, qui est absolument inéluctable. Et pourtant, les villes ne sont pas prêtes. Elles sont vraiment faites pour les jeunes familles, pour les jeunes populations. C'est pour ça qu'à Saint-Lambert, ça fonctionne. Les banlieues, confirme Daniel Gilles, ne sont pas du tout prêtes à retenir ces gens qui auront besoin de moins de superficie habitable, de services accessibles à pied, de milieux de vie dense et agréable. Elles savent que ça s'en vient, mais elles ne font rien. Autrement dit, dans ces banlieues-là, celui qui n'a pas sa voiture, celui qui ne conduit plus, celui, il est pas mal obligé de vivre comme un ours dans sa tanière. Alors que Saint-Lambert est déjà prêt depuis un bon moment. Des choses qu'on trouve ailleurs, ici et là, c'est vrai, mais ce qui distingue Saint-Lambert, c'est que tout cela s'y retrouve déjà et que tout peut se faire à pied ou presque, tout est accessible sans auto, tout permet et favorise la marche, l'activité, la socialisation. Parce que c'est vrai, c'est important pour les personnes âgées. C'est comme pour les chiens. Il faut socialiser. Hein? Un jour, on va nous mettre dans des parcs. On va être promenés par nos petits-enfants. Voilà. Et on va nous amener à la socialisation. Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant comme analyse. Parce que c'est vrai que c'est pour ça que ça fonctionne à Saint-Lambert. Et puis, c'est quand même tout près. Bon. OK. Je vais commencer à regarder par... Ah oui, mais non. Zut, il y a un pont à traverser. La caricature de côté. Nous sommes dans un salon et ce sont deux enfants qui regardent la télévision et qui regardent, c'est évident, une émission pour enfants. Et il y a une petite fille, la petite fille, une petite fille, un petit gars, et la petite fille, elle a une calculette dans la main. Et alors elle dit au petit gars, et c'est le fun parce que les syndicats, ils réclament 13,5% sur 3 ans. Puis là, le gouvernement propose un gel pendant 2 ans, suivi de 1% pendant 3 ans. Hey, c'est pas fini les grèves, hein? Bon, alors je devrais trouver maintenant un petit peu plus de sérieux, Madame Say, s'il vous plaît, l'éditorial de Madame de qui non, c'est Marc Thibaudeau qui montre que la discrimination a également des des effets sur la santé physique, sur la santé, oui, physique. Les cas de violence policière, écrit Marc Thibaudeau ce matin dans son éditorial consacré aux droits de l'homme, les cas de violence policière recensés au cours des dernières années aux États-Unis sont venus rappeler crûment que la discrimination tue. La mort tragique de plusieurs jeunes Afro-Américains a cristallisé les tensions et forcé les élus à examiner en profondeur les mécanismes institutionnels qui permettent ces dérives. Mais la discrimination exerce aussi un effet délétère, plus sournois, qui fait des victimes loin des caméras. Des recherches, écrit Marc Thibaudeau, ont déjà démontré que les membres de la communauté afro-américaine qui s'estiment victimes d'un traitement inégalitaire sont plus susceptibles de développer des problèmes de sommeil et des dérèglements hormonaux qui pourraient miner gravement leur santé. Une nouvelle étude de l'université Northwestern, basée sur les fluctuations du niveau de concentration d'une hormone de stress importante, le cortisol, indique que la discrimination a un effet cumulatif dans le temps. Plus la discrimination dure plus longtemps, plus le dérèglement est marqué et ses effets potentiellement importants. De manière encore plus préoccupante, l'étude indique que la discrimination a un impact à long terme plus important lorsqu'elle survient à l'adolescence dans une période de bouleversement physiologique où des expériences difficiles sont plus susceptibles de laisser une empreinte durable. Et là, c'est une citation, on entend souvent dire que ce sont des adolescents, qu'ils vont s'en remettre, mais ce n'est manifestement pas ce qui se passe sur le plan biologique. Note une professeure, Madame Emma Adam, qui a utilisé des données colligées sur une période de 20 ans pour en arriver à ses conclusions. L'étude des chercheurs de l'université Northwestern donne un argument de plus aux élus, si besoin est, écrit M. Thibaudeau ce matin dans la presse, pour faire de l'égalité une réalité pour tous, plutôt qu'un vertueux principe. Une opinion assez courte qui nous vient de Marjolaine Cloutier de Trois-Rivières et qui est parue ce matin dans la presse sous les pages consacrées aux élections fédérales. Ce sont les 10 commandements du candidat signé Marjolaine Cloutier. Alors à toi qui attends mon vote et qui aujourd'hui m'aime comme jamais, j'ai le goût de te proposer ces 10 commandements écrits cette dame. Commandement 1, ne me fais pas de promesses que tu ne saurais tenir. Yeah! 2. Sois à l'écoute de tes électeurs afin de leur proposer de vraies solutions aux problèmes qu'ils vivent. 3. Rappelle-toi que tu es au service du citoyen et que ce n'est pas lui qui est au service de ta carrière. 4. Ne bifurque pas de sujet quand je te pose une question. Vous avez le droit de rigoler, Christiane. 5. Si tu n'as pas la réponse, ne me réponds pas n'importe quelle absurdité dictée par une ligne de parti ou un stratège en communication. Dis-moi simplement que tu ne sais pas. Mais que tu vas faire les démarches nécessaires pour trouver l'information et me répondre adéquatement, ce que nous faisons d'ailleurs régulièrement ici. Quand on ne sait pas, on fait une recherche, c'est tout, enfin. 6. Ne frappe pas sur l'autre candidat afin de te faire valoir, mais dis-moi plutôt ce que tu as à m'offrir. C'est cute, hein? 7. Fais preuve d'humilité. Oui. 8. Ne prends pas de raccourcis intellectuels afin de mettre de l'avant des phrases punch et sans fond, mais élabore sur le sujet. 9. Permets-toi des erreurs de bonne foi plutôt que des mensonges de circonstances. Non, d'ailleurs, ça, c'était le 10. Le 9, c'était travaille toujours afin que l'égalité, l'équité et la justice sociale soient au centre de tes préoccupations. Et 10. Permets-toi des erreurs de bonne foi plutôt que des mensonges de circonstances. Maintenant que c'est dit, conclut Marjolaine Cloutier, qui que tu sois, sache que j'ai de l'admiration pour toi et pour ton engagement. Je crois encore que la majorité des gens qui s'impliquent en politique le font pour les bonnes raisons, mais je suis à un poil d'être totalement désabusé, alors ne me déçois pas. Le 19 octobre prochain, je voterai. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
C'est bousculé, ça se bouscule sur le net ce matin?
Ben, ça réagit fort. Ça s'est surtout bousculé hier soir et il y a très peu de blagues, disons. Parce que, entre autres, bon, il y avait le banquier sur lequel j'ai vu passer peu de choses avec Martin Matt. Oh. C'est la bonne cause et du rigolage,
bon. Okay.
Bien entendu. Mais tout le monde en parle, c'était pas léger hier. Il n'y avait aucun sujet léger. Même l'invité qui était peut-être un premier avec Monica Bellucci. Quand on a des vedettes internationales, il y a très peu de controverses. On les flatte généralement dans le sens du poil.
Ouais, ouais.
Ensuite, même avec l'humoriste Philippe Laprise, on parlait de TDAH, on parlait de coupures déjà, on parlait déjà un peu des coupures en éducation. Ensuite, on a parlé d'éducation avec deux enseignants et Normand Baillargeon, ce qui a fait dire à FD Laramé, anciennement de Canal Z. Normand Baillargeon est un trésor national.
Ah oui, mais c'est vrai. Hein? Que nous avons reçu quand même, et je m'en félicite à l'émission des livres plein les oreilles. Enfin.
Le gros raté qui écrit « Le gouvernement met en place les inégalités de demain en laissant tomber les élèves les plus vulnérables ». Ensuite, on a eu le passage de M. Mulcair. Encore quelques... Mais ça, c'est... Dans ce temps-là, les commentaires, en général, c'est ceux qui ont déjà leur idée de fête qui commentent.
Oui, oui, ouais, c'est vrai. Oui, ouais,
et c'est du gros trollage politique. Très peu de gens qui analysent vraiment. Sinon, après, on a eu deux sujets. On a eu le harcèlement sexuel et la violence conjugale. Alors, c'était pas Jojo. Et ça donne... Et bien entendu, il y a... Ça a réveillé les idiots sur les médias sociaux, ceux qui continuent de blâmer les victimes, de sous-estimer la... Dans le cas du harcèlement sexuel, surtout d'excuser et de minimiser.
Oui.
Et dans le cas de la violence conjugale, de blâmer la victime et sauter sur le fait que, dans ce cas-ci, il s'agissait de quelqu'un d'une autre culture, alors de régler ça tout simplement en disant « ben là, c'était à elle de ne pas sortir avec un Africain ». Il y a aussi eu de la confusion sur le témoignage, justement sur le harcèlement sexuel. La témoin avait le visage brouillé. Et dans certaines descriptions, entre autres sur Illico, on avait nommé un nom. Mais ce n'était pas le nom de cette dame-là, c'est une autre dame qui est sortie dans les médias. Parce que ça crée de la confusion sur le coup. Pourquoi vous brouillez son visage si désormais on sait qui c'est? Mais ce n'était pas la même.
Bon, OK.
Alors voilà, mais ce qui est intéressant, j'ai remarqué, Sophie Sexologue, qui est Sophie Morin, une sexologue assez active sur les médias sociaux, qui a déjà eu une émission à CIBL. Quand il y a des sujets comme ça, elle commente et surtout, elle donne des ressources aussi.
OK.
Donc, elle se sert de la tribune, qui est le hashtag, tout le monde en parle, pour renseigner dans ces moments-là, que ce soit sur le harcèlement sexuel ou sur la violence conjugale, donner des numéros de téléphone, des ressources. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a Justine Robert aussi qui écrit « On ne harcèle pas parce qu'on a une libido d'enfer ou qu'on aime trop les femmes. On harcèle parce qu'on est aveuglé par son propre pouvoir. »
Oui, c'est oui, certainement. Oui, c'est oui, absolument. J'entendais ce matin un questionnement à la radio, c'est au sujet de la femme de M. Aubu. Alors, vous comprenez, on devrait arrêter d'en parler, c'est terrible pour sa femme, pour sa famille. Et l'animateur disait, ben oui, je comprends, mais ça n'enlève rien à ce qu'il a fait aux autres. Quoi.
Voilà. Et pour ce matin, décès de l'écrivain Henning Mankell.
Mais oui, j'ai entendu
et,
ça.
Et l'État islamique détruit le célèbre arc de triomphe de Palmyre.
Ce matin?
C'est ce matin que j'ai vu passer la nouvelle. Oh.
Ben oui, ça jette un froid, hein, parce que...
Voilà. Oui.
Enfin bon, alors pas de commentaires à ça. Merci beaucoup, Christiane. Alors, à la une du Journal de Montréal ce matin, René et Nathalie font la paix. Après plusieurs moments difficiles, on s'en souviendra. Cassian ou Cassiane mis en échec. C'est une nuit qui se termine très mal pour le jeune joueur du CH. On savait quand il est arrivé ici que c'était pas un enfant de cœur. Il avait dit qu'il avait vieilli, tout ça, mais il s'avère que non, apparemment, il a encore des problèmes. Et c'est incroyable, on vient justement de parler de cela avec Christiane au sujet de harcèlement, l'enfer d'une ex-enquêtrice au SPVM dans la foulée de la controverse de harcèlement sexuel et Marcel Aubu. Cette femme qui avoue avoir été incapable de dénoncer le haut gradé qui l'aurait harcelée pendant 15 ans. Mais je l'ai entendu parler ce matin, elle disait que ce n'était pas dans son cas du harcèlement sexuel, il ne l'a jamais touchée. Mais c'était du harcèlement sensuel, mettons, là, mais ça a duré 15 ans, et voilà. Alors, dans le Journal de Montréal, Ce matin, je vais aller tout de suite à la page... Non, je vais sauter, si j'ose dire, M. Martineau. Je vais aller à la page 8, où on nous dit que le français est littéralement en perdition dans les cégeps. La mauvaise maîtrise de la langue par les étudiants pose un problème aux enseignants, écrit Daphné Dionvien. Le piètre français des étudiants préoccupe les enseignants du cégep qui affirment qu'il s'agit du principal problème auquel ils sont confrontés en classe. En classe. Savez-vous quels sont les principaux défis rencontrés par les enseignants de cégep? Eh bien, la maîtrise du français, 91%. Aïe, aïe, hein? Motivation, 89%.
Pas le goût, pas envie.
Intérêt et habileté en lecture, 68%. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Méthode de travail, 54%. Culture générale, 47%. Niveau intellectuel, 38%. Assiduité, 22%. On parle toujours des problèmes auxquels on se confronte. Donc, 22% n'ont pas du tout d'assiduité. 19% l'usage des technologies. 10% les compétences informationnelles. Autrement dit, en réseaux sociaux et en médias sociaux, là, les mômes, ils comprennent tout ça très, très bien. Il n'y en a que seulement 10% qui n'ont aucune compétence en ce qui concerne les informations qu'ils reçoivent et l'usage des technologies. C'est quand même intéressant. Il y en a 91% qui ne parlent pas bien français. Et les élèves en difficulté, ce serait en réelle difficulté, ce serait 9% selon une enquête qui a été effectuée par le journal. Les capitaux chinois, c'est assez hallucinant. On vous avait parlé il y a quelques semaines de la maison la plus chère. La maison la plus chère vendue en 2015 qui appartient au fils d'un homme riche d'affaires de Shanghai qui possède des centaines de centres commerciaux et des usines. Et vu que le fils en question étudie au Québec, eh bien, le père lui a acheté une maison valant 10 millions de dollars. Eh bien, c'est pas tout. Figurez-vous que le quart, en deux mois, le quart des maisons à plus de 2 millions de dollars ont été acquises par des investisseurs chinois. Autrement dit, ça fait l'effet de... C'est bon pour ceux qui vendent, mais c'est quand même incroyable. C'est là qu'on voit la richesse aussi en Chine. Et qui dit richesse, dit aussi grande pauvreté et le fossé qui s'élargit, bien sûr, entre les deux. Je me dirige maintenant en page 16. Pourquoi avez-vous entendu parler, c'est tellement ridicule, de ce type qui s'est fait escorter par des policiers pour sortir d'une piscine? Pourquoi? Parce qu'il a refusé de porter un casque de bain. Bon. Sauf que le gars est chauve. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mathieu?
Je veux dire que le port du casque va être obligatoire bientôt.
Non, j'ai dit casque. Non, mais le casque de bain, c'est donc un bonnet de bain, quoi. Bon. Eh bien, sauf que le gars est chauve. Mais chauve, c'est même pas qu'il se rase. Il est chauve. Il a pas... un poil sur le caillou. Et il dit, le pire, c'est qu'à côté de moi, il y a un gars qui nage avec un bonnet de bain et il a une barbe longue comme celle de Castro. Il dit, enfin, c'est complètement aberrant. Alors, sauf que c'est celui-ci qui s'est fait montrer la porte de sortie par la police la semaine dernière. Alors, en page 29-30, toujours des chroniques, bien sûr, dans le Journal de Montréal, un extrait de celle-ci. De Madame Ravary, qui s'appelle Les Maudites Motos. Elle fait de la moto, elle adore faire de la moto, mais malheureusement, elle dit, quand on analyse les circonstances des accidents, il y a deux éléments qui émergent, l'inexpérience des conducteurs et l'inattention, voire l'agressivité de plusieurs automobilistes. Et elle dit... Il m'est déjà arrivé de stationner ma moto sur la voie de service de l'autoroute des Caries pour étêter un automobiliste, pour le décapiter, qui s'était réfugié dans un lave-auto après m'avoir frôlé de très, très près. Il a tellement eu peur qu'il est allé se réfugier dans un lave-auto. Pour ce qui est de l'expérience, dit Madame Ravary, et de son corollaire, la jeunesse, il faut le dire haut et fort, la formation, chère et obligatoire, est inadéquate. J'ai failli mourir pendant mon cours, dit-elle. Les écoles n'enseignent pas la maîtrise d'une motocyclette. Mais comment réussir l'examen de la SAAQ? À moto comme en auto, les jeunes seront toujours plus à risque parce qu'ils se croient invincibles. Mais on pourrait leur donner un coup de main en réglementant l'accès aux grosses cylindrées selon les années d'expérience. Ce serait simple, non? Elle dit, malgré cette passion pour la moto, j'ai peu roulé cet été. J'ai presque développé une psychose à cause de l'état des rues de Montréal et des routes québécoises. Je ne comprends pas que les cyclistes ne s'en plaignent pas davantage. Encore hier, j'ai failli prendre une fouille. J'imagine que ça veut dire une débarque,
oui,
un accident. à cause d'une crevasse dans la chaussée de la rue Saint-Denis. Derrière moi, me collait aux fesses un bus de la STM. Si j'avais perdu le contrôle, vous ne seriez pas en train de lire cette chronique. Maudite moto, je vous dis. La caricature dans le Journal de Montréal. Et si les Québécois achetaient leur voiture, comme ils votent? Alors nous sommes chez un concessionnaire, il y a le vendeur, et il y a à côté l'acheteur, et il y a une voiture bleue, une voiture jaune, une autre voiture bleue, une voiture orange. Et le vendeur qui dit « Mais vous voulez pas savoir les caractéristiques du moteur, de la conduite, de la consommation d'essence ?» Et l'acheteur qui dit « Non, je vais prendre la rouge, elle est plus belle. » Quant à Isabelle Maréchal, ce matin, dans sa chronique, elle nous parle de l'intransigeance du docteur Barrette. Elle nous parle d'une jeune femme à qui il reste peu de temps à vivre. Elle est atteinte d'un cancer du pancréas et on lui dit qu'au Québec, là, on ne peut plus rien faire pour elle. Alors, elle est allée en Allemagne et elle est allée voir un docteur qui s'appelle le docteur Vogel. Elle sait très, très bien que chez ce docteur-là, on ne pourra pas la soigner, on ne pourra pas la guérir. Mais elle sait qu'elle va gagner un peu plus de temps, notamment pour voir vieillir ses enfants. Et elle a donc fait le choix d'aller rencontrer ce docteur-là et, oui, de gagner un petit peu de temps pour les voir vieillir. Mais le docteur Barrette n'en démord pas. Le docteur Vogel devra publier une étude sur les travaux pour qu'il le prenne au sérieux. Sans étude, le ministre de la Santé ne veut rien savoir. Autrement dit, il remet en cause la façon de traiter les patients par ce médecin allemand qui souligne le côté commercial des traitements, comme si nous au Québec ne faisions pas payer les patients étrangers qui viennent se faire soigner ici. Pourquoi les Allemands, demande Isabelle Maréchal, auraient-ils à payer pour des soins prodigués à des Québécois? Alors, elle a parlé au fameux docteur Vogel qui se défend de vendre du rêve. Nous insistons pour dire que nous ne faisons pas de miracle. Sur 20 patients qui nous contactent, pardon, nous n'en prenons qu'un. Nous traitons seulement ceux à qui nous croyons possible de rallonger la vie. Elle a reçu de nombreux témoignages de Québécois qui se sont fait traiter à Francfort, frustrés devant la lenteur du système québécois. Peut-on les blâmer, dit Isabelle Maréchal, de chercher ailleurs un peu de répit? Non, je ferai comme eux. Quand tu te fais dire ici que tu en as pour 3 mois à vivre, mais qu'on ne peut te donner un rendez-vous avec un oncologue avant 3 mois, tu te demandes qui joue avec ta vie. Le docteur Barrette ne sait-il pas que l'espoir garde en vie, conclut Madame Isabelle Maréchal. C'était dans le Journal de Montréal, bien sûr.
Donne-moi le doute, la douleur, le malaise, le chaos, le trouble. Donne-moi le doute, le stress, le soupçon, le frisson, le vertige. Je n'en ai rien à foutre de vos sophismes, rien à foutre de votre rhétorique, rien à foutre de vos métaphores, rien à cirer de vos certitudes. Je m'en moque et de vous, je me fous. Donne-moi le doute, la douleur, le doute, le chaos, le trouble. Donne-moi le doute. Donne-moi le doute, l'indécis, l'épreuve, le souci, le spleen. Donne-moi le doute, l'ironie, la satire, le brisé, le grave. Vos vérités approximatives, vos divinités, tout autant. Mon seul salut, le cynisme. Je n'en ai rien à foutre de votre conscience, rien à foutre de vos devises, rien à foutre de vos cadences, rien à cirer de vos assurances. Je m'assume, je vous assure. Donne-moi le doute, le malaise, le doute, le stress, le soupçon. Donne-moi le spleen. Thank you. doute, le désordre, le différent, la dissidence. Donne-moi le doute, la cohue, le confus, le mêlant, le mêlé. Je n'en ai rien à foutre de vos sophismes, rien à foutre de votre rhétorique, rien à foutre de vos métaphores, rien à cirer de vos certitudes. Je m'en moque et de vous, je me fous. Donne-moi le doute, le redoutable, le doute, le mêlant, le mêlé. Donne-moi le spleen. Donne-moi le doute et l'orage. Donne-moi.
Jim Corcoran, le trop rare, hein, devrais-je dire, Jim Corcoran, sur les ondes, quelles qu'elles soient, mais sur Canal M, nous, on le diffuse. Bonjour mes amis, bonjour Roger Roy, bonjour Franceline. Monsieur Hamelin nous a lâchement abandonnés.
Enfin, il est sur un plateau de cinéma ou quelque chose.
Ah, oh, bah oui, mais ça, je suis contente pour lui, parce que c'est quand même un petit peu plus payant que de venir ici tous les lundis. Hein?
Et puis sinon, j'imagine.
Alors, on le comprend bien, le Serge, de nous avoir abandonnés. Passe une bien belle journée. Franceline, belle semaine, belle fin de semaine.
Oui, très, très belle fin de semaine.
Bon, vous avez joué combien au golf hier?
Non, moi, je ne suis pas du tout golfeuse. Pas du tout. Je suis allée voir la nature que je pensais plus colorée qu'elle n'est, mais
c'est vrai, hein?
oui elle est pas encore, c'est pas encore très
non,
rouge,
on est en retard
même dans le nord.
Moi aussi, mais je me dis, moi je pense même, je sais pas vous, mais je me demande si ça va pas passer directement du orange jaune à plus rien, quoi. Ouais, je sais pas si ce sera autant rouge que les autres années.
Parce qu'on disait qu'il y avait canton de l'Est hier, un golfeur ou une golfeuse, que encore? C'était rouge là-bas. Ouais.
Ah oui, ça y est, c'est rouge, parce que moi, j'étais dans l'Ouest. j'étais... Mes amis, il faut que je vous dise quelque chose.
Oui.
Pour moi, Rigaud ne sera plus jamais qu'une chanson.
Ah oui.
Vous connaissez la chanson?
Oui, oui, oui,
on avait un nom de Rigaud, à poutre, à poutre, machin. Bon. Et bien moi, pour moi, Rigaud, c'était toujours une chanson. Ben là, maintenant, voilà, j'ai découvert ce qu'on appelle les champs de patates, là, transformés en pierre. Mm-hmm. J'ai pris des grandes marches à pied. Et puis, non, c'est vraiment intéressant.
Les champs de patates transformés en pierre.
Oui. Oui, oui, c'est parce que c'est une légende à Rigaud qui court, qu'à un moment donné, en haut de la montagne, là, il y a comme un monticule, enfin une colline, enfin bref, une bosse, en tout cas bref, et on cultivait les patates sur cette... Et à un moment donné, on dit que le diable aurait changé les patates en pierres. Ah, oui. Alors on s'est mis à vouloir, et ce sont des pierres de grès, hein, ce sont des grosses pierres. Et alors il y a des gens dans les années 1900 début qui ont commencé à faire descendre les pierres par un système de rails et tout ça. C'était extrêmement difficile. Et bon, finalement, il y a eu un jour un accident, il y a eu un mort et on a arrêté complètement de faire ça. Et les champs de pierres sont toujours là. Et c'est assez, voilà, et c'est à Rigaud. Alors au lieu de penser à Rigaud, et bien pensons. C'était Oscar Tiffon qui chantait ça, non?
Je pense que oui. C'est
un classique. Aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce que vous avez pour nous? Parlez-nous de vos sujets.
Des sujets très costauds. Voilà.
Ah, allez-y, Roger, allez-y.
Alors, je vous parlais de génocide en Irak, c'est pas jojo non plus.
Ben, c'est parti de la vie.
Les antibiotiques dans votre assiette, ça.
C'est pas jojo non plus. Non.
Par ailleurs, j'ai un petit topo qui traite de jeunes qui s'organisent. Au lieu d'aller acheter des outils, ils s'organisent une espèce de coopérative.
Ah, c'est bien.
Chacun se les transfère ou se les prête. Oui. Ça les emprunte.
Oui.
Ou ça les...
Enfin, oui, non, non, mais c'est vrai. Mais c'est bien. Et je suis sûre que les périodes d'austérité que l'on oui. connaît actuellement vont favoriser ce genre d'initiative civique. Et... Ouais. Franceline, pour
alors,
vous.
Moi, je vais avoir deux sujets qui ont une petite saveur électorale. Le premier, enfin, un des sujets est les Premières Nations détiennent-elles un vote stratégique?
Oui.
Le deuxième sujet, c'est le vieillissement et la hausse des coûts en santé.
Mmh.
Donc, et enfin, un autre sujet totalement différent qui sera parents mode d'emploi.
Okay.
Vous connaissez tous ces livres sur l'éducation des enfants. Il y en a des tonnes et des tonnes. Alors là, c'est un article qui va un peu en reparler.
Parfait. Alors, cher Roger, c'est à vous de briller.
Bon, le 15 octobre, oui, le texte est vraiment un peu déprimant, mais enfin. C'est dans l'actualité du 15 octobre. C'est un texte de Guillaume Fontaine. Il parle du bureau du génocide. Cela pourrait être la salle d'attente de n'importe quel bureau, si les murs n'étaient pas couverts de photocopies en noir et blanc de photos sur lesquelles on voit exposer sans détour la tragédie des monts Sinjar. Sinjar. Alors...
En Irak.
J'y arrive. Le moment où l'horreur a commencé pour les Yézidis, Y-E-Z-I-D-I-S. Femmes en pleurs, ça, ce sont les photos, les photocopies. Femmes en pleurs exténuées, enfants inanimés, foule à garde qui marchent dans le désert. Corps alignés face contre terre et leurs bourreaux au drapeau noir, armes à la main. Ceux qui entrent dans ces locaux de Dohuk, dans la province autonome du Kurdistan irakien, viennent raconter ce qui a suivi. Le calvaire des victimes de l'État islamique. Il y a un peu plus d'un an, dans les premiers jours du mois d'août 2014, les troupes de l'État islamique s'emparaient presque sans résistance des monts Sinjar. La région était le lieu de vie historique de la communauté des Yézidis d'Irak, des kurdophones adeptes de l'une des plus vieilles religions monothéistes du monde, le yézidisme, qui plonge ses racines dans l'Iran antique et s'est nourri des autres religions du Moyen-Orient au fil des siècles. Décidément, le chat fait des ravages.
Le chat n'est pas encore sorti du sac.
Non, il n'est pas sorti. Hein. Je pense que je vais devoir m'arrêter.
Un petit peu de musique, on va regarder. Vous savez, moi, ça m'arrive régulièrement, mon petit Roger. Laissez encore un petit peu de temps si vous voulez. Vous savez ce qu'on a appris ce matin, qu'à Palmyre, là, le fameux arc, il y a comme un espèce d'arc de triomphe à Palmyre.
Oui, oui.
Ça y est, ils l'ont jeté à terre.
Sauter,
ça
hein.
y est, ils l'ont fait sauter.
C'est
ça y est. Enfin bon, bref, sur ces bonnes paroles.
Oui, ce sont. Ben, enfin, ici, c'est pire que pour les monuments. L'armée irakienne avait fui, abandonnant armes et véhicules. De leur côté, les combattants kurdes avaient choisi de se retirer après une escarmouche. Un choix lourd de conséquences. Près de 500 000 personnes. La grande majorité étant des Yézidis, étaient jetés sur les routes, tentant d'échapper aux exactions des extrémistes, dont les Yézidis étaient la cible principale. Exécution de masse filmée par les membres de l'État islamique, décapitation, torture, pillage des villages et enlèvement systématique des femmes et des enfants. L'État islamique s'est livré à des crimes d'une rare violence contre ceux qu'il considère comme des adorateurs du diable. Une accusation traditionnelle envers le culte yézidi. Et ces crimes se poursuivent encore aujourd'hui. L'État islamique détiendrait toujours près de 4000 prisonniers, principalement des femmes et des enfants. Le bureau que dirige le juge Eman Bamerni a été mis en place par le gouvernement régional du Kurdistan dès les premiers jours de septembre 2014 pour tenir lieu de salle d'enregistrement de ces atrocités. Le juge, 10 enquêteurs et 4 psychologues et assistants sociaux composent l'effectif. Le nom officiel, Bureau d'enquête du Haut Comité pour l'identification des crimes génocidaires commis sur des personnes résidant dans les zones de peuplement kurde hors du territoire du gouvernement régional du Kurdistan. Mmh. C'est bravo. Le titre, bon.
Bravo, Roger, bravo.
A le mérite d'être explicite quant à la mission, mais un peu long. Oui. Oui, c'est ce que dit le journaliste. Oui. Ceux qui y travaillent l'ont rebaptisé plus sobrement « Bureau du génocide ». Après plus d'un an d'activité, il y a un fonctionnement bien rodé. Lorsqu'un témoin se présente, le plus souvent une femme, nous faisons établir un rapport médical complet, ainsi qu'un examen psychologique, explique le capitaine Fallah Hassan, qui dirige la partie policière de l'enquête. Les victimes sont souvent ravagées par ce qu'elles viennent de subir. Certaines sont incapables de parler. Nous essayons de les ménager autant que possible. Il faut parfois plusieurs jours pour recueillir leurs témoignages. La teneur des récits est aujourd'hui bien connue. Nous entendons des histoires concernant des fillettes de 8 ans, des femmes victimes d'agressions sexuelles indescriptibles pendant des mois, raconte Kayal, la seule femme officier du groupe d'enquêteurs. Certaines ont vu leurs compagnes prisonnières se suicider ou être tuées. D'autres ont été vendues 10 fois, parfois pour une cigarette ou quelques dollars, et n'ont pu s'échapper qu'au prix de risques incalculables. On est au 21e siècle.
Oui, oui, oui.
Le texte est plus long, je peux peut-être raccourcir un peu. Pourquoi fait-on tout cela, là? Mm-hmm. L'ONU a reconnu le caractère génocidaire des crimes de l'État islamique contre les Yézidis, mais le travail du Bureau du génocide n'en demeure pas moins essentiel. L'ensemble des documents amassés par le comité devra être produit à la Cour pénale internationale. C'est elle seule qui pourra qualifier ces massacres et choisir le moment où elle voudra ouvrir le dossier, explique Mahmoud Haji Salih, ministre des martyrs et de l'ANFAL, sous l'autorité duquel est placé le bureau. Une décision pourra prendre des années. Le procureur de la Cour pénale internationale commence seulement à s'occuper de la guerre de 2003 en Irak. C'est pour cela que nous préparons l'enquête à venir en recueillant de façon officielle preuves et témoignages, poursuit le ministre. Le bureau a déjà finalisé plus de 1000 dossiers. Des milliers d'autres sont en attente. Nous sommes sur le terrain, nous enregistrons les crimes au moment où ils se produisent. Les victimes ne resteront pas toutes en Irak. Les preuves disparaissent avec le temps et les coupables peuvent s'évanouir dans la nature. Ce travail, personne ne pourra le faire plus tard, souligne le juge Bamerni. Lorsque la Cour pénale commencera son enquête, toute la documentation sera là, prête à être utilisée. Les enquêtes menées par le bureau sont non seulement irremplaçables, mais elles feront gagner des années de travail à la justice.
Oui.
Texte dans l'actualité du 15 octobre, oui. Signé par Guillaume Fontaine, le bureau mais du génocide.
Oui, c'est il y en a encore hein, des génocides en ce moment. Ouais, ça me fait penser à ces gens aussi. Pareil, c'est en Indonésie aussi qu'il y a eu comme ça toute une... des gens qui ont été complètement abandonnés à eux-mêmes et qu'on a vu aussi prendre des bateaux assez récemment, oui. Qui étaient dans un état de maigreur. Vous vous souvenez, c'était des photos terribles. Mais bon, c'est une réalité et c'est normal qu'on en parle. Merci, Roger. On écoute ça, on vous écoutait, puis voyez-vous, à la une encore du Devoir ce matin, il était dit que dans le cadre du conflit israélo-palestinien, eh bien, une nouvelle spirale de la violence est redoutée.
Eh oui. Hein.
On n'en sortira donc jamais. Chère Franceline, oui. C'est à votre tour.
Oui,
vous nous arrivez avec quoi?
Oui, moi je reviens au Québec et je reviens avec le vieillissement de la population et la hausse des coûts en santé au Québec. Alors, au Québec, le vieillissement de la population suscite des inquiétudes en grande partie relatives au coût du système de santé. Un certain nombre d'analyses anticipent un choc démographique et concluent que le vieillissement fera bondir ses coûts. Or, selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, cette approche est simpliste. Ah. Oui, il n'y aura pas de choc démographique, disent-ils. Le vieillissement sera graduel, affirment les chercheurs Francis Fortier et Guillaume Hébert dans une note socio-économique publiée en avril dernier. Ce discours alarmiste sert à mettre la table à une privatisation des services et à favoriser les intérêts particuliers aux dépens de l'intérêt collectif. Semblant s'inscrire dans cette tendance, un article publié en août dans Le Devoir rapportait que le privé recrute les jeunes médecins. Mais il n'y a pas seulement les jeunes médecins, précise Guillaume Hébert en entretien téléphonique. C'est devenu un mythe de dire que le système de santé est public. toutes les initiatives nouvelles qui se développent, y compris au sein de l'État, sont inspirées par le privé. Alors, ces chercheurs de l'IRIS remettent les pendules à l'heure et affirment que le vieillissement n'apparaît pas comme le plus important facteur contribuant à la hausse des coûts en santé. L'évolution de l'ensemble des technologies, allant des médicaments à l'instrumentation ultramoderne, aurait un impact plus important sur les dépenses que le vieillissement, pris isolément, peut-on lire dans leur étude. Alors, la pharmacologie est la première technologie à placer au cœur des politiques publiques, souligne-t-il. Les personnes âgées consomment davantage de médicaments et ce poste de dépense est celui qui a le plus contribué à l'augmentation des coûts en santé. Pour contrer cette tendance, les gens devraient être plus vigilants. Sans aller à l'autre extrême et dire adieu aux médicaments, il ne faut pas croire que plus de médicaments signifie meilleure santé. Met en garde M. Hébert. L'industrie pharmaceutique investit plus dans la publicité de nouvelles marques que dans la recherche et les développements. Les campagnes de publicité incitent les gens à acheter ces nouveaux médicaments, dont plusieurs n'apportent rien de plus. Ouais, les gens payent pour les effets de mode. Les lobbies sont importants et même les médecins en sont victimes. Ils commencent à en prendre conscience. Le gouvernement n'investit pas assez dans les analyses et les études pharmacologiques. Plusieurs patients l'ont constaté. L'usage d'un plus grand nombre de médicaments tend à causer de nouveaux problèmes et de nouveaux médicaments sont alors requis pour soigner les maux liés à la combinaison des deux produits, expliquent les chercheurs, ajoutant que cela peut entraîner l'hospitalisation et des coûts importants. Hein, c'est un cercle vicieux. Selon Guillaume Hébert, il est vrai qu'il faut ajuster le système au changement quand on doit répondre à des enjeux sociaux tels que le vieillissement. C'est pour ça qu'on élit un gouvernement, des gens qui sont censés être capables de planifier sans céder à la panique. Mais en se tournant trop vite vers le privé comme maintenant, le marché répondra aux besoins des plus riches et les autres vont tomber dans l'oubli. Il aimerait qu'on se rappelle que le régime d'assurance maladie a été mis sur pied quand on a fini par se rendre compte que quand on laisse le privé gérer les soins médicaux, on n'y arrive pas. Il suffit de réfléchir deux minutes pour réaliser qu'on n'y arrivera pas si on ne fait pas un geste collectif. Il faudra un système public qui se tient à l'écart des intérêts privés. Ouais. Et voilà, donc c'était un article écrit par Marie-Josée Lacroix dans le journal Le Bel Âge de octobre 2015 et d'actualité en vue de ces futures élections.
Exactement, et vous savez que ce matin, il y avait une chronique fort intéressante dans la presse que j'ai lue d'ailleurs à cette émission Les Voix de Service, signée Patrick Lagacé, sur le fait que Saint-Lambert, et il se disait comment ça se fait que ça fonctionne bien à Saint-Lambert, comment ça se fait qu'il y a encore une petite rue principale qui fonctionne, tu sais, puis que ça ne ressemble pas. Mais il dit, mais bien sûr, c'est parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui vivent là-bas, pendant que les autres bossent. Et il dit, mais est-ce que les autres banlieues se sont préparées à cette réalité-là situation. Parce qu'effectivement, souvent, ce sont des gens qui vont choisir Saint-Lambert. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de voiture.
Absolument.
Parce qu'ils peuvent tout faire, parce que tout est à proximité. Ouais. Alors que, va-t-on habiter le quartier d'Istrente ? Là, je ne suis pas sûre que ce
que
soit...
Que ce soit très bon pour les personnes âgées.
Non, exactement.
Vieillissantes.
Tourne du côté de Roger Roy.
Oui, avec un texte que je suis allé lire dans le Selections Religious Digest du mois d'octobre. Abonné aux outils, c'est le titre.
Ah oui,
les
jeunes.
Il y a une belle photo, la photo d'une belle jeunesse.
Oui, hein, oui, oui.
Qui tient.
Et c'est vrai qu'ils sont jeunes. Hein, on parle de quoi, 20 ans,
à
peu près.
La
là.
Jeune vingtaine.
La jeune vingtaine.
Il y en a une qui a une pompe à pneus là, pour les bicyclettes.
Oui.
Une scie ronde.
Oui, enfin. Oui.
Alors, ce sont des abonnés aux outils. En ce mardi soir de juillet, je pense que c'est en 2015, l'ambiance est familiale à la remise. Ça s'appelle la remise. Par terre, des enfants jouent aux petites voitures pendant que leur mère discute des emprunts qu'elles feront cette semaine. Elles repartiront finalement avec une scie circulaire et une ponceuse à courroies. Il faut dire que la remise n'est pas une bibliothèque, entre guillemets, comme les autres. Ce ne sont pas des livres qui garnissent ces étagères, mais des outils de toutes sortes. On peut emprunter des perceuses, des escabeaux, des fers à souder, des compresseurs, mais aussi une tondeuse.
Ah oui?
Puis ceux qui sont pas en plein. Un sac à couchage, ou un ensemble à fondu.
Ben oui, pourquoi pas?
Ça, pourquoi
plutôt
pas.
Que de les acheter.
C'est ça.
C'est génial.
À notre première réunion en mai 2013, nous étions 10 autour de la table pour démarrer ce projet. L'idée venait de Villeray,
en transition, un groupe citoyen qui veut réduire la dépendance aux hydrocarbures et limiter la consommation, raconte Alexandre Couture-Lalande, président et cofondateur de La Remise. Nous habitions tous dans de petits appartements, sans espace pour entreposer des outils, et nous partagions les mêmes valeurs. À nos yeux, cela ne faisait aucun sens d'acheter un outil pour l'utiliser une ou deux fois avant de le ranger dans un placard, pas plus que tous les habitants de la même rue aient une scie et une tondeuse chacun. Sans compter le gaspillage que ces achats engendrent et leur impact sur l'environnement. Motivés par leur conscience environnementale et leurs valeurs communautaires, La Remise, c'est la communauté qui se prend en main pour améliorer sa qualité de vie, dit Alexandre Couture-Lalande. 6 à 7 jeunes bénévoles ont travaillé soir et fin de semaine pour mettre sur pied la première outil tech du genre au Québec.
C'est plan génial.
Plan d'affaires.
Ah oui. Hein?
Demande de bourse, immatriculation du nom, campagne de sociofinancement, construction du site web laremise.ca.
Oui.
En un seul mot, La Remise.
Non, ils ont fait ça sérieusement en plus. Hein?
Recrutement de bénévoles, aménagement du local. Cela prendra 2 ans pour mettre en route le magasin d'emprunt parce que c'est un projet fait par la communauté, pour la communauté. La Remise est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Chaque membre a un vote, peut se présenter au conseil d'administration et voter aux élections de ce conseil. Quant aux profits, ils sont réinvestis dans les services puisque le but est, à la différence des entreprises de location, de proposer une large gamme d'objets d'usage commun à moindre prix. Il faut ainsi débourser 10 $ pour être membre et 60 $ pour l'abonnement annuel illimité jusqu'à 12 outils à la fois pour une durée d'une semaine. 12 outils. Ouf. C'est nos travaux.
Oui, c'est ça, parce que 12 outils...
Oui, mais il suffit quand même d'en avoir plusieurs, souvent, pour bricoler. Hein,
ah oui, c'est vrai. Elle a raison, Franceline.
Outre les instruments, La Remise offre aussi un espace de travail pour que les gens puissent réaliser leurs travaux et des ateliers sur différents thèmes, comme la menuiserie, l'entretien de vélo, la couture, ou la réparation de petits appareils. Notre première formation, Déménagement 101, a eu lieu en juin. Ce soir, nous offrons un atelier pour apprendre à fabriquer une chaise Adirondack, indique Nadine Pinault, bénévole et membre des comités finances et programmation de La Remise. C'est fou! Les 6 places pour cette activité se sont envolées en 2 heures.
C'est pas étonnant, non?
Parlant de succès, l'outil tech a effectivement suscité un bel engouement dès ses débuts. La campagne de sociofinancement a permis d'amasser 25 000 $ en un mois et près de 90 % des centaines d'outils proviennent de dons. L'objectif de 300 membres en un an a été atteint au bout d'un mois. On est très heureux de la variété de gens qui viennent nous voir. Il y a des personnes âgées, des étudiants, des habitants d'autres quartiers qui voudraient avoir une bibliothèque comme celle-là, fait observer Nadine Pinault. Cet enthousiasme se reflète aussi par le nombre de bénévoles. Ils sont de 35 à 40 à travailler au bon fonctionnement de la bibliothèque.
Wow.
Et 35 autres sont inscrits pour offrir leurs services. Parmi les bénévoles, Sandra Guerreiro Yainto, une étudiante fraîchement arrivée au Québec, elle dit ceci: « J'avais contacté La Remise juste avant qu'ils n'ouvrent pour devenir bénévole et bénéficier des outils, car j'adore le bricolage, mais je n'ai aucun outil chez moi. De toute façon, je n'achèterai jamais des objets comme la scie électrique. Je ne l'utilise que de temps en temps, dit-elle. Je trouve que cette bibliothèque est une excellente idée que j'aimerais d'ailleurs beaucoup rapporter à Lisbonne. » Parce qu'elle est portugaise. Abonnée aux outils.
Ben, c'est formidable. C'est à Villeray, ça? Dans le quartier Villeray?
C'est ça. L'idée venait de Villeray.
Et
ça.
Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, on fait bien le laremise.ca. C'est vraiment facile.
Il faut dire aussi que le texte est signé par Kanza Benis.
OK. Et les bénévoles qui sont là, ça, on ne sait pas, mais parce que moi, je veux bien faire venir une scie électrique, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de... s'occuper de la transporter puis la manier, la scie électrique?
L'histoire ne le dit pas.
Donc, en fait, les 35 bénévoles sont là pour le service.
Oui,
quoi,
il va falloir qu'ils surveillent parce qu'à un moment donné, on peut emprunter puis on a des difficultés à rembourser, à remettre ensuite.
Mais c'est vrai qu'on s'attache à une tondeuse. Hein. Alors, Franceline.
Oui, j'ai une petite brève qui concerne la pharmacie. Je vous ai lu précédemment un texte là-dessus. Et la brève s'intitule « Le ménage de sa pharmacie familiale en 4 étapes ». Afin de réduire les risques liés à un mauvais usage de médicaments chez soi, il est recommandé donc de faire régulièrement le ménage de son armoire à pharmacie. Premièrement, il faut vérifier les dates d'expiration des médicaments obtenus sous ordonnance ou en vente libre, ainsi que les produits naturels destinés à un usage thérapeutique. Alors, on enlève tous les ceux dont la date d'expiration est dépassée, mais on ne les jette pas à la poubelle ni dans les toilettes, à cause de l'environnement, bien sûr. On les rapporte au pharmacien qui en disposera de façon sécuritaire et écologique.
Qui les remettra dans une petite bouteille en changeant la date. Non, c'est pas vrai, ils font pas ça.
On se débarrasse aussi de tous les médicaments qui n'ont plus d'emballage, qui ont été ouverts depuis un certain temps. Et on élimine les produits que l'on possède depuis plus d'un an pour les yeux, par exemple, les oreilles, dont la bouteille est ouverte depuis plus d'un mois. Ça, on garde souvent ça, on s'en est servi un peu, on le garde. Il faut jeter ça. Et puis, il faut aussi se rappeler que de conserver les médicaments hors de la portée des enfants.
Ça, c'est vrai. Mais merci beaucoup. C'est bon de se le faire rappeler de temps en temps, Franceline. Oui, vous avez absolument raison. J'ai envie de vous garder avec moi encore une demi-heure. Est-ce que je peux abuser
certainement,
de vous?
C'est très agréable. Absolument.
Alors, je vais abuser encore de mes deux collaborateurs du lundi matin, que sont Franceline et Roger. À tout de suite. Et je vais me faire un plaisir de repasser, et j'espère que c'est de même pour vous, la prochaine demi-heure avec mes amis Roger et Franceline. On aime ça, hein? Bam, badadam, bam, bam. Franceline,
oui, alors
vous
moi,
arrivez avec quoi?
Oui, je reviens avec un article publié dans Le Devoir de ce matin sur les Premières Nations qui, avec la question, les Premières Nations détiennent-elles un vote stratégique? Et c'est écrit par Jean-Claude Leclerc. Lors d'une élection, les enjeux d'ordre éthique ou religieux sont rarement au programme des partis, sauf quand il s'agit de flatter certains électeurs ou de leur faire peur. Les élections du 19 octobre réserveront-elles une surprise? Pendant que quelques partis et des médias se ruaient sur l'immigrant Tony Cab, hein, dont on a beaucoup parlé, ils restaient muets sur les autochtones du pays. Or, longtemps privés du droit de vote jusqu'en 1960 et moins nombreux à se rendre aux urnes, les membres des Premières Nations détiendraient, dit-on, la clé du pouvoir. Pareil résultat serait historique. Honte nationale et internationale, le sort de cette population aurait dû compter parmi les priorités des partis dans la présente campagne. Malheureusement, les autochtones du pays demeurent une minorité diversifiée et dispersée. Au siècle dernier, une commission de réforme avait proposé d'établir des circonscriptions électorales autochtones avec siège au Parlement. Une autre avait même recommandé la création d'une assemblée législative distincte, mais sans succès. Depuis, il est vrai, de rares députés autochtones ont été élus à Ottawa, mais ces communautés n'ont pas acquis des moyens proprement politiques d'affirmation collective. Néanmoins, à ces élections-ci, il aurait dans 51 des 338 circonscriptions un vote stratégique. C'est important, hein ?
Oui, absolument.
Ces suffrages leur permettraient de faire battre certains des 23 conservateurs vulnérables en Ontario et dans l'Ouest, ou de préserver une vingtaine de néo-démocrates en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Si ces communautés allaient ainsi priver Stephen Harper du pouvoir ou le vouer à redevenir minoritaire aux communes, elles auraient certes servi aux conservateurs leur propre médecine, eux qui excellent à manipuler les diversités les diverses minorités du pays. Mais auraient-elles pour autant obtenu l'assurance d'un gouvernement qui leur donnera justice ou d'une opposition qui ait enfin le courage d'enrayer le génocide culturel dont elles sont encore victimes? Mais rien n'est moins sûr.
Certes, oui.
Ouais. Aux dernières élections, seulement 44% des électeurs des réserves sont allés voter, une moyenne nettement plus faible que dans la population en général. Dans certaines communautés, la participation fut même marginale, sinon symbolique. Quelques votes suffiront sans doute ici ou là à renverser la faible majorité d'un député sortant. Mais ailleurs, il en faudra davantage, surtout quand la lutte s'annonce serrée entre 3 ou 4 partis et que leurs appuis sont imprévisibles. L'impatience a gagné depuis l'élection de 2011, au niveau de la jeune génération. Les chefs traditionnels n'ont plus autant d'ascendant sur leur communauté. Les controverses nationales qui se déroulent sur leurs terres ancestrales ne mobilisent plus seulement que des autochtones. Des défenseurs de l'environnement proviennent aussi d'autres milieux. Et si les uns ont encore recours aux contestations judiciaires et aux protestations pacifiques, d'autres ne cachent pas leur opposition, que leur opposition pourrait être violente. La participation des autochtones au scrutin des dernières décennies, tout en étant moindre que celle de l'ensemble de la population, témoigne certes d'une acceptation du système démocratique. Mais une partie des communautés en voit encore trop les faiblesses pour lui confier leurs intérêts. Et surtout, une minorité radicale rejette carrément le vote universel, y voyant une menace à l'identité autochtone et au droit de gérer ses propres affaires. Bref, voter pour des candidats d'autres cultures ne suffit plus. Le NPD a inscrit à son programme plusieurs articles répondant à des exigences autochtones et Thomas Mulcair aligne 23 candidats venant de ces communautés. Les libéraux souscrivent aussi à plusieurs demandes et Justin Trudeau compte dans ses rangs 18 candidats autochtones. Quant au parti de Stephen Harper, il en compte 4 seulement, dont Léona Aglukkaq, actuellement ministre de l'Environnement. Le 19 octobre dira combien d'entre eux vont accéder au Parlement et au gouvernement. Entre-temps, Élections Canada aura fort à faire pour encourager les autochtones des réserves et ceux des villes à se rendre au bureau de vote. Et c'est sans doute aussi pour protéger ses électeurs contre des manœuvres frauduleuses, comme celles encore peu élucidées des dernières élections fédérales. Sans oublier la crainte de certaines communautés qui dépendent trop encore du pouvoir fédéral d'être identifiées par leur vote à un parti plutôt qu'à un autre. Mais quel que soit le résultat de ces élections, la question autochtone ne saurait être résolue par les seuls partis ou le pouvoir fédéral. Les provinces sont aussi de plus en plus conscientes des problèmes qui se posent. Les villes et leurs services sont interpellés par ces femmes autochtones assassinées ou disparues. Hein, on en parlait encore ce matin.
Ça fait la une.
Ces enfants retirés de leur famille et qui risquent de subir un sort aussi déplorable, sinon pire, que dans les pensionnats d'autrefois. Qu'il s'agisse de femmes, de prisonniers ou d'enfants, les victimes autochtones témoignent non seulement de l'échec de la tutelle fédérale, mais aussi de la pauvreté qui a englouti des réserves, ainsi que du racisme qui attendait les Amérindiens et les Inuits en quête d'une vie meilleure dans les villes. En même temps, force est de constater que le développement économique et social qui a valu progrès et prospérité ailleurs au Canada ne saurait, sans plus de discernement, servir de modèle d'avenir aux Premières Nations. Les partis ont commencé à faire place à des autochtones dans leurs instances. D'autres institutions devraient les imiter, y compris au Québec. Voilà, donc c'était cet article écrit par Jean-Claude Leclerc dans le quotidien Le Devoir de ce lundi 5 octobre.
Merci Franceline. Roger, vous êtes déjà en train de rire. Pourquoi? Parce que c'est un sujet un peu moins douloureux, peut-être,
Non, c'est peut-être aussi... on a peut-être peur d'avoir peur, je ne sais pas. S'il y a du pour, il y a du contre, ouais. On ne sait pas trop.
Non, c'est vrai.
Mais ce qu'on nous présente, c'est une illustration, c'est une poule, alors qui est faite de pilules antibiotiques, complètement, de la crête jusqu'au pâte. Des antibiotiques dans notre assiette.
Oui.
Chaque décennie semble nous apporter son lot de repas moins chers et plus copieux. Et aucun de ces succès n'est aussi impressionnant que l'industrie du poulet, la protéine qui se retrouve dans nos assiettes avant tout autre. Près de 2700 éleveurs canadiens ont produit 1 milliard de kilos de poulet en 2012. Cela peut se ressembler...
Excusez-moi, j'essaie d'imaginer. Imaginez,
oui. Et,
1 milliard...
Ça en fait des pattes de poulet.
Oh là,
bon, cela peut ressembler à une bonne nouvelle. Un poulet dans chaque casserole, disait-on autrefois.
Hein? Oui.
C'est ça. Et d'une certaine manière, c'en est une. En 1950, il fallait 84 jours aux producteurs pour élever leur volaille. Aujourd'hui, la plupart des poulets sont abattus après 38 jours.
Ouh.
Les éleveurs peuvent produire un kilo de viande avec deux fois moins de nourriture et de temps. Une telle efficacité explique pourquoi le Canadien type mange 31 kilos de poulet par année, soit 21 kilos de plus qu'en 1965. Des antibiotiques permettent aux éleveurs de volailles de maximiser le rendement tout en réduisant les coûts. Les pathogènes prospèrent dans un poulailler de 1 000 m² abritant 10 000 oiseaux, chauds,
couvert de litière et surpeuplé. C'est un environnement idéal pour la croissance et la transmission des germes. Les poulets attrapent à peu près toutes les infections auxquelles ils sont exposés. Pour cette raison, les éleveurs n'utilisent pas seulement les antibiotiques comme nous le faisons pour soigner une infection. Ils en administrent systématiquement de faibles doses aux animaux pour prévenir les infections. Sans compter que les antibiotiques accélèrent la croissance.
Ah!
Ouais, voyez-vous. Au Canada, le Canada est l'un des rares pays... Le Canada est l'un des rares pays développés qui en autorise la vente libre pour les animaux. Il y a seulement deux provinces qui exigent des ordonnances. Il est donc facile pour les éleveurs d'obtenir des antibiotiques et d'en abuser.
Mm-hmm.
Il est également plus difficile pour les scientifiques et les organismes gouvernementaux d'obtenir un suivi de leur utilisation. Les éleveurs peuvent faire venir de n'importe où dans le monde un approvisionnement pour 3 mois de médicaments non enregistrés et non réglementés, à la condition de ne pas les revendre. Le Canada est le seul pays industrialisé du monde occidental qui permet cela. Le résultat est que les animaux y sont les plus grands consommateurs d'antibiotiques. Plus de 1,6 million de kilos, selon un rapport du ministère canadien de la Santé. À titre de comparaison, nos médecins nous en prescrivent à nous des antibiotiques, là, 200 000 kilos par année, alors que les poulets, eux autres, 1,6 million de kilos. D'antibiotiques. Bon, je vois que Francine a les yeux fermés.
Je suis écœurée, je crois que je n'ai plus mangé de poulet en sortant d'ici.
Continuons la démonstration.
D'accord, Roger. Écœurée encore un peu plus.
Une des principales... On va atterrir, là, on va arriver sur le plancher des
D'accord.
vaches. Une des principales souches bactériennes que l'on trouve dans les élevages de poulets est la Salmonella Heidelberg. Voilà, c'est encore pire. Elle n'a pas d'effet sur les poulets, mais peut rendre gravement malades
les
êtres humains.
Les êtres humains, oui, ça
Infection extra-intestinale, septicémie, myocardie, et parfois même les tuer. Des bactéries comme la Salmonella Heidelberg, c'est un beau nom, Heidelberg, prospèrent parce qu'elles sont très prolifiques. Elles peuvent se reproduire en quelques minutes et se transformer elles-mêmes en créant de nouveaux fragments de code génétique qui les rendent plus résistantes que la génération précédente.
Ouais, et donc, il faudra de nouveaux antibiotiques et...
Oui, c'est ça. Partout dans le monde, des professionnels de la santé préviennent que nous risquons d'entrer dans une ère post-antibiotique où les bactéries seront devenues résistantes à tous les médicaments connus.
Voilà.
Cette perspective est assez effrayante pour que l'on parle de crise, ça c'est à l'OMS, d'un cauchemar, selon les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies, et d'une menace catastrophique, selon Sally Davis, médecin en chef du Royaume-Uni. Si les antibiotiques deviennent inefficaces, nos vies s'achèveront beaucoup plus vite. Certains scientifiques comparent la résistance aux antibiotiques au réchauffement climatique. Le phénomène est engendré par l'activité humaine et nous le connaissons depuis longtemps, mais le problème est si complexe et met en jeu un si grand nombre d'intervenants qu'une solution semble hors de portée. Le rôle de l'élevage animal dans la résistance aux antibiotiques chez l'humain est depuis longtemps l'objet de débats acrimonieux. De ce point de vue aussi, la question ressemble à celle du réchauffement climatique. Il est plus facile de lancer des accusations que de régler le problème. Les médecins publient des commentaires cinglants dans le New England Journal of Medicine, blâmant les producteurs de viande. Ceux-ci répondent en évoquant des études qui suggèrent que l'utilisation abusive des antibiotiques en médecine est le principal responsable. De nombreux médecins, dont Jim Hutchinson, sont d'accord avec les éleveurs. Le fait que beaucoup de pays ne réglementent pas les médicaments en vente libre destinés aux humains est préoccupant. Néanmoins, personne ne conteste que l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage animal contribue à la résistance bactérienne et qu'une réforme de la manière dont nous distribuons les médicaments au Canada s'impose depuis longtemps. L'utilisation irresponsable des antibiotiques dans une seule partie de la chaîne alimentaire ou dans une seule partie du monde nous met tous en danger. Et on peut continuer, si vous voulez.
Non, mais j'en reviens à vos propos au tout début, avant que vous commenciez à lire. Ouais. Vous avez dit, on se demande si on n'a pas peur de la peur maintenant. Tu sais, ouais, enfin, ouais. En tout cas, parce que on nous dit ça, puis que la population, du coup, on va mourir plus jeune. Mais bon, ça, c'est quand même pas d'hier qu'on bouffe des poulets aux antibiotiques. Et or, la population... Et vieillissante, je veux dire, moi, je sais que nos parents, quand ils avaient 60, 65, 70 ans, commençaient à être âgés. Aujourd'hui, à 65, 70 ans, il y a beaucoup de gens, et heureusement, qui pensent qu'ils ont encore un bon 20 ans devant eux, puis ils sont actifs, et puis tout ça. Alors, Je me dis, qui croire, tu sais,
exactement, c'est ça.
On nous dit à un moment donné, manger du poisson. Oh, tout d'un coup, ça y est, on est en train de vider les océans,
oui,
puis les poissons, ils bouffent, et puis il y a le mercure.
Alors, avec le poisson.
Alors, c'est ça, quoi, c'est vraiment...
Attention, il n'y a pas des antibiotiques seulement dans le poulet, il y a aussi dans le saumon élevé, dans les bassins.
Ben oui, c'est ça, c'est ça.
Même les abeilles, dont le miel est naturellement doté de propriétés antimicrobiennes, sont traitées aux antibiotiques.
Oh, ben oui.
On ne peut pas s'en sortir, mais non. On a survécu jusqu'à maintenant.
Ben oui, non, mais c'est sûr qu'on est quand même choyé, béni, mais enfin, c'est certain qu'il ne faut pas s'étonner aussi qu'après, en ce moment, il y a dans le domaine de l'écologie beaucoup de gens qui poussent et qui offrent des produits écolos, comme les poulets, justement, qui ne sont pas élevés avec tout ce machin-là.
Ils sont dans une basse-cour en train de picorer.
C'est ça.
C'est là qu'au Danemark, on les a interdits, là.
Mais le problème,
mais le problème,
c'est que ça coûte une fortune aussi.
Oui. Et les lobbies pharmaceutiques aussi,
voilà.
Là-dedans. Hein.
Exactement. Alors c'est pour ça que on nous fait peur. Mais bon, ma petite Franceline, ça va être à vous d'ici quelques secondes. On va faire une petite pause musicale.
On va changer complètement de.
Exactement. Et alors en plus, il faut qu'on digère, hein. Alors, Franceline.
Alors, moi, je vais vous lire un article qui concerne la façon de comment exercer son métier de parent.
Oh.
Oui, depuis un siècle, les psychologues, pédiatres et autres spécialistes ont fait entendre leur voix, relayée aujourd'hui par les médias et les politiques de soutien à la parentalité.
Bonne chance, Franceline.
Oui, j'ai failli ne pas vous interrompre, Franceline, mais quand j'ai vu la tête de Roger qui a fait « Oh, oh,
voilà. Oh, oh. » Alors, ce qui est écrit dans cet article par Claude Martin, qui est un sociologue directeur de recherche au CNRS, il écrit « En l'espace d'un demi-siècle, la condition parentale a profondément évolué. Ces mutations auraient provoqué pour les uns une démission parentale, voire une faillite des responsabilités des parents. D'autres insistent plutôt sur la redéfinition de leur rôle. Ces préoccupations ont engendré un marché médiatique porteur depuis plusieurs décennies, avec les émissions de radio et de télévision, l'émergence de toute une presse spécialisée ciblant les parents, l'enfant et la famille, la publication de nombreux livres, il suffit de voir les titres, « J'ai tout essayé, j'élève mon enfant » de Laurence Pernoud, Comment bien élever nos enfants, élever nos enfants avec une attitude bienveillante, etc.
Moi, c'est facile, je lui dis, va jouer sur l'autoroute.
Mentionnons aussi les célèbres causeries qui datent un peu maintenant, radiophoniques, là, de Françoise Dolto, qui était diffusée en France dans les années 70. Et puis les programmes La Super Nanny, créée au Royaume-Uni en 2004, et puis qui a été rapidement reprise et adaptée dans de nombreux pays. Puis les succès des séries télévisées qui prennent des pratiques et conduites parentales comme support. Hein. On a les parents en ce moment à Radio-Canada, comme exemple.
Papa a raison.
Papa a raison, c'est ça. Je ne me souvenais pas trop ça. Internet a incontestablement donné un nouvel élan à cette offre de conseils en bonne pratique, du prêt à l'emploi pour savoir quoi faire et comment se comporter quand votre enfant pleure trop, qu'il a du mal à s'endormir ou qu'il veut dormir dans votre lit, ou au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il regarde trop la télévision, ne lâche plus son portable, devient dépendant des réseaux sociaux, ou encore qu'il s'est mis à fumer, à expérimenter la marijuana, ou commencer les week-ends bien arrosés. Voilà, il y a des tas d'exemples. Au fil de l'âge des enfants et des parents, les conseils se déploient, mais ne tarissent pas, couvrant un large spectre de situations. Cette profusion actuelle ne doit pas nous faire oublier que le conseil aux parents pour améliorer leur performance éducative a une longue histoire, faisant l'objet d'un marché qui s'est développé tout au long du XXe siècle, tout particulièrement aux États-Unis, adossé à des experts issus le plus souvent du champ de la psychologie et de la pédiatrie. Dans un ouvrage publié en 2003 et intitulé « Rising America », Anne Hulbert raconte cette formidable histoire du conseil aux parents dans lequel, tout au long du XXe siècle, se succèdent et s'affrontent plusieurs vagues d'experts qui sont autant d'auteurs à succès. Alors elle mentionne ainsi l'opposition dès l'aube du XXe siècle entre Stanley Hall, l'un des psychologues qui fera beaucoup pour introduire Sigmund Freud aux États-Unis en 1909, et Luther Holt, un pédiatre, centré sur la question des besoins de l'enfant en matière d'alimentation. Donc c'est toujours un doux et un dur, en quelque sorte, pour reprendre ces termes, c'est-à-dire un pédiatre centré sur la croissance, opposé à un docteur en psychologie, donnant davantage d'importance aux relations et aux émotions. Alors, elle évoque aussi Watson, pour qui la personnalité est le résultat d'un conditionnement environnemental, hein, le behaviorisme Encore, elle parle de Jezel, qui lui privilégie le rôle des relations humaines. Puis après la Seconde Guerre mondiale, le grand victorieux du conseil aux parents est sans conteste le fameux Benjamin Spock. Ah. 750 000 exemplaires vendus dès 1946. Ces formules choc comme le message adressé au maire, vous en savez plus que vous ne le croyez. Et ces préconisations invitant les parents à être davantage bienveillants, affectueux plutôt qu'autoritaires, ont rayonné bien au-delà des États-Unis et ont connu après-guerre, un formidable écho. Nombre de représentants de la génération du baby-boom se souviennent de ces conseils, hein, les docteurs Spock. D'autres experts avec lui vont prendre place sur ce marché, comme le pédiatre Brazelton ou la psychologue britannique Penelope Leach, privilégiant un apprentissage en aimant et écoutant l'enfant. Mais Spock sera aussi beaucoup critiqué dans les années 70 dans les écrits d'un psychanalyste, Brulo Bettelheim, fameux « Pour être des parents acceptables ». Reprenant à sa manière l'autre fameux ouvrage du pédiatre et psychanalyste Winnicott, « La famille suffisamment bonne ». Cependant, à partir des années 90, les partisans d'une éducation plus rigide se font à nouveau entendre. Hein, on passe toujours d'un effet à l'autre. Tel John Rosemond, thérapeute familial, inventeur de l'affirmative parenting, qui vendra 1 million d'exemplaires de son ouvrage manifeste « A Family of Value » en 1995. Le marché du conseil aux parents n'a donc cessé de croître. Il est le fruit d'une demande liée aux inquiétudes et incertitudes des parents quant à leur mission éducative. Il est le reflet du renouvellement des attentes en fonction des générations de parents. Mais le développement du conseil aux parents ne se limite pas à la seule logique du marché. Il est aussi appuyé par une demande politique qui développe depuis quelques décennies des politiques de soutien à la parentalité, dans la mesure où les États se préoccupent d'éviter les risques supposés de l'échec des parents dans cette mission éducative. L'objectif de ces interventions centrées sur les pratiques parentales est de socialiser, accompagner, mais aussi contrôler ces premiers agents de socialisation que sont les parents. Selon l'idéologie dominante du moment, on insiste sur la nécessité de punir les parents incapables et incompétents, de soutenir ceux qui en ont le plus besoin, de les former à une tâche perçue comme de plus en plus complexe face à de nouvelles générations d'enfants qui sont à la fois plus agiles et curieux du monde environnant, mais aussi plus longtemps dépendants du soutien parental. Entre contrôle et responsabilisation, les politiques de soutien à la parentalité sont étendues et gageons qu'elles ne cesseront encore de se développer. Oui. Voilà, c'est être parent, mode d'emploi.
Oui, c'est ça. C'est pas si facile que ça. Non. Bon, c'est toujours pareil. On parle de quoi ? On parle du gros bon sens, mais le gros bon sens, c'est pas non plus évident. Et puis, comme m'avait dit un jour une psy, elle m'avait dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, le parent fera des erreurs en tant que parent. Absolument. Quoi qu'il arrive.
Absolument.
Même quand on pensera être le parent parfait, de toute manière, on va faire des erreurs. Que l'enfant, d'ailleurs, va peut-être, entre guillemets, payer plus tard, c'est aussi puis le lot, ça continue, puis lui il sera parent, puis il fera d'autres bêtises. En ce moment, ce qui est intéressant, c'est le phénomène des parents rois. Hein. On parle de ça de plus en plus. Parce que là, je vois Roger qui a les yeux plein de questionnements et de points d'interrogation. Ce sont les parents qui défendent tellement leurs enfants bec et ongles qui vont jusqu'à
L'école.
Hein, à l'école, c'est ça.
Oui, j'ai entendu ça cette semaine. Ça m'a un peu impressionnée.
On a puni mon enfant parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Mais qui êtes-vous? Oui, c'est vrai.
On le connaît.
Et puis même, ça peut bien lui arriver une fois de ne pas être en forme. Qui êtes-vous pour punir mon enfant?
Thank you.
petite brève?
Oui.
Dans l'immobilier, comment se payer une maison à 1 million de dollars? C'était un gros point d'interrogation.
Il faut avoir des origines chinoises en ce moment.
Comme dit la publicité, le prix moyen d'une maison individuelle à Vancouver atteint maintenant 1,1 million de dollars. Comment parvient-on à payer un tel prix?
En louant
une partie de sa maison.
Ah.
On ne dit pas quel est le prix du loyer. Comme le font plus de 40 % des propriétaires de Vancouver, selon un sondage du groupe d'assurance Square One Insurance, mené auprès de 4000 clients canadiens. Dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, 25 % des propriétaires louent une partie de leur propriété. Seulement 7 % font de même en Ontario et 5 % en Alberta. On n'a aucune donnée sur cette question-là au Québec.
Comme par hasard. Moi, j'ai un petit placard à louer, remarquez.
Oui.
En avez-vous une autre?
Mais ça doit être très cher. Une très courte, là.
Allez-y donc.
Un sourire, s'il vous plaît.
Oui.
D'ici 2020, l'Élysée consacrera des millions d'euros pour attirer 100 millions de touristes par année et pour apprendre aux Français à sourire. Même si la France est le pays le plus visité du monde, il abriterait, selon un rapport du Conseil de promotion du tourisme, les habitants les moins sympas de la planète. Un petit sourire, s'il vous plaît. Évidemment, il faut prendre ça avec un gratte-ciel.
On peut pas être content quand on entend ça, même si on a choisi d'en partir. Ça prend bien une raison, mais c'est vrai quand même qu'il y en a beaucoup qui ont un air de bœuf quand même.
Il y en a ici aussi.
Mais je me suis amusé un jour. Il faudrait que je vous le fasse entendre. Tiens, il faudrait que j'en fasse un petit reportage. Je me suis amusé un jour à la gare Saint-Lazare à Paris. Il y avait évidemment les trains étaient en retard. Enfin bon, c'est toujours le bazar. Et il y avait un monsieur, mais on aurait dit un sketch. Vous savez, là, le français qui fait « Oh, mais va regarder ça !» Puis il fout rien. Puis en tout cas... Et c'était tellement gros, énorme, que je me suis approché de lui avec mon iPhone et je l'ai enregistré. Puis je lui ai dit « Vous n'avez pas l'air content, monsieur, de la façon dont ça se passe. » Et pendant 2 minutes, il déblatère sur le gouvernement, sur les cheminots, sur la SNCF, sur le... Et c'est un sketch. Je pourrais mettre ça sur une scène. Là. On ne coupe pas un mot, sauf que c'était pas un sketch du tout. C'était vraiment... Parisien qui n'était pas content.
J'ai vu un vieux monsieur au coin de Laurier et Brébeuf en train de chialer contre les réparations qu'ils sont en train de faire sur ce coin de rue-là. C'était la même chose.
Ils
font 45 à travailler autour d'une pelle.
Oui, c'est vrai. Oui, effectivement.
Les cônes.
Mais surtout que là, c'est pour faire, si mes souvenirs sont bons, c'est pour faire une espèce de terre-plein central pour embêter les autos. Non, mais c'est je vais le dire gentiment. Alors, Franceline et Roger, merci beaucoup à vous deux, encore une fois, de vous être déplacés pour m'encadrer et puis pour venir nous faire la lecture de ces papiers. On se retrouve la semaine prochaine?
Non. Ben non, c'est pas lundi.
Vous avez raison! On se retrouve dans deux semaines.
Finalement,
vous êtes chanceux, c'est toujours le lundi, vous.
C'est vrai que tous les fériés sont le lundi, la plupart.
C'est pour ça que vous avez choisi le lundi.
Sûrement, dans mon inconscient.
Il y a des choses qui sortent qui devraient pas sortir.
Alors, on va vous retrouver avec grand plaisir dans 2 semaines.
Ok, prenez soin de vous. Bon 2 semaines.
Merci, au revoir.